Les enfants vont à l'école du dimanche et nous croyons que Dieu veut nous bénir. Vous le croyez, j'espère. Voilà, je me suis envoyé un mail avec la prédication, comme ça, on jette pas du papier, on abat moins d'arbres. C'est ce qu'on croit, enfin. Voilà. Alors, ce matin, on va d'abord prier pour la prédication. Est-ce que, Jean-Philippe, tu veux prier pour la prédication?
Merci Seigneur.
Amen. Oui, Jésus. Oui, Père. Amen. Oui, Seigneur. Touche nos cœurs. Oui, Père. Oui, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci Jean-Philippe. Voilà, je vais vous parler de deux expériences à vivre. L'une vient de Dieu, l'autre vient de nous. Et je crois que c'est intéressant de voir ces deux expériences qui vont ensemble. Deux expériences. Souvent, Dieu fait le premier pas et puis il attend une réponse. Et c'est comme ça, ça marche comme ça. Ça, c'est l'alliance. Dieu s'engage et nous devons nous engager aussi. C'est le mariage aussi, l'alliance. L'alliance entre Dieu et son peuple d'Israël. Les alliances qui ont été faites dans l'Ancien Testament, on le voit, toutes les alliances, c'était souvent un grand, un roi important, un empereur, et qui avait beaucoup de vassaux. Les vassaux, c'est quoi? C'est des petits roitelets, quelquefois, qui avaient besoin d'un plus fort pour être protégé. Et en cas d'attaque, eh bien, on se réfère à l'alliance, et il y a une nation plus forte qui va nous défendre. Il y a des alliances comme ça aussi, avec l'OTAN, etc., encore des alliances actuelles, l'Europe, même s'il y a le Dixit, hein, les Anglais qui sont partis, pour ne pas peut-être payer les pots cassés de la Grèce et du reste, hein, la solidarité, ça marche un temps, et puis quand il faut trop payer, hein, quelquefois on s'en va, c'est dommage, parce que la solidarité, c'est mieux. Voilà que les alliances peuvent se rompre. Et ça, c'est dommage. Mais, logiquement, Dieu voudrait que nous puissions répondre. Si l'homme est infidèle, Dieu demeure fidèle. L'homme, malheureusement, est quelquefois infidèle. Donc, la part qui nous revient, on n'est pas si sûr que ça, que ça se fera, mais c'est un désir. Si la foi est là, si le désir est là, si la fermeté dans la foi est là, ça va durer. Bien souvent, nous voyons que sans fermeté, même le mariage peut exploser, les relations avec Dieu peuvent exploser. On a vu vendredi encore un rappel d'Israël, Judas qui avait vu l'exemple de sa sœur, c'est Israël, hein, au temps où les deux royaumes coexistaient en même temps, en 722 avant Jésus-Christ, c'est les Assyriens qui ont détruit Israël, et Judas devait se rappeler ce qui s'était produit à côté. Mais ils n'ont pas tiré de leçon, et finalement les Babyloniens sont venus et ont détruit Judas de la même manière. Israël et Samarie avaient été détruites plus tôt. Et donc, l'histoire se répète. On ne prend pas toujours attention, on ne fait pas attention, on ne se remémore pas, on oublie, et on répète les erreurs du passé. Faisons attention. Il nous est possible de réussir. Je me disais, beaucoup de rois ont plus ou moins bien commencé. Certains ont bien commencé, franchement, bien commencé, d'autres, ils ont déjà été à côté de la plaque depuis le départ, donc ils sont restés comme ça. Mais certains étaient des hommes droits, Et certains se sont laissés aller au fur et à mesure de la vie qui passe. Parce que quand le temps passe, on attrape plus d'assurance par les habitudes, par le statut qu'on a. Et dans notre vie spirituelle, faisons attention de ne pas être attrapé par cela aussi. Tout va bien, on a le bon point, et puis finalement, tout coule, tout roule. Et puis, les épreuves, on sait comment les négocier, on finit par savoir, on a de l'expérience. Et on a peut-être moins de crainte de Dieu. Et s'égarer, c'est pas trop grave, on sait bien que Dieu est un lieu de grâce, on connaît tous les versets là-dessus, et on sait bien qu'on pourra toujours revenir. Mais c'est avec crainte et tremblement que nous devons poursuivre notre salut. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu juste, et il ne change pas. Hein. Nous changeons quelquefois, mais Dieu ne change pas lui. Il reste le même, parce qu'il n'a pas changé, puisqu'il est parfait. Nous, ça peut changer, hein. Comme vous voyez les valeurs qui changent, tout s'ébranle, tout est différent, on met en question toutes ces valeurs. Tout peut changer, mais Dieu demeure le même. Ses valeurs, ses exigences demeurent les mêmes. Parce que Dieu n'est pas associé à une culture, à la culture d'une époque plutôt, la culture d'une époque. Dieu s'immisce dans toutes les cultures, mais il n'est pas associé à une culture d'une époque donnée qui se veut moderne. Et quand on est moderne, alors tout peut arriver, non. Dieu est au-dessus de cela. Il est là pour nos contemporains parce que sa parole ne vieillit pas. Ça, c'est sûr. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu et nous allons prendre deux mots qui sont essentiels dans cette prédication. C'est se relever et se lever. Donc, se relever et se lever, ou être relevé, et prendre la décision de se lever. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et ce sont les deux expériences. Dieu veut nous relever, il a la puissance de nous relever. Hein, nous avons connu des temps où nous étions en bas, terrassés par l'épreuve, par l'ennemi, par le péché, et ce que nous avons fait, c'est crier à Dieu pour notre délivrance. Hein, quand on est au bas de la fange, au bas du puits, dans le fond du trou, on n'a plus qu'à crier à Dieu parce qu'on sait que le secours humain est très limité. Hein, très limité. Mais Dieu est capable de nous sauver. Et alors, Dieu, bien sûr, qui est bon, il nous secourt. Ceux qui en ont fait l'expérience, il n'est pas un Dieu incapable de compatir à nos faiblesses. Nous avons vu Dieu intervenir, Dieu nous a relevés et il a fait taire l'ennemi. L'ennemi qui hurlait, hein, tu n'y arriveras pas, t'es fichu, t'es foutu. Toutes ces paroles ont été détruites par la parole de Dieu qui nous a montré, Dieu nous a montré combien il était vivant, combien il est plus puissant que la voix de nos ennemis. Et il nous a fait remonter. Job, au chapitre, j'ai oublié de le mettre, le chapitre. Ceux qui sont tout en bas, il les relève. Ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Il place en haut ceux qui sont abaissés, et ce sont les désespérés qui parviennent au salut. Les désespérés. Regardez un peu dans le monde si les désespérés on les considère bien. Et mon vieux, t'as qu'à être courageux, hein, relève-toi. Les gens désespérés, ils sont pas bien considérés. Qu'est-ce qu'on va faire avec des gens comme ça? On va voir un psy. Repose-toi, ça ira peut-être mieux après. Bon, éclipse-toi. Les gens n'ont rien à faire avec ces gens-là. Mais Dieu, lui, il trouve son plaisir à nous relever. Il trouve du plaisir à nous relever, pas nous abattre encore plus bas que nous sommes. Parce qu'il y a des gens sur la terre qui trouveraient du plaisir à nous mettre encore plus bas. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, de critiquer ceux qui sont déjà en bas. ceux qui sont tout en bas, il les relève, ceux qui sont dans le deuil retrouvent la joie. Il place, dans la NBS, Nouvelle Bible Seconde, il place en haut ceux qui sont abaissés, en haut, ils étaient abaissés, mais Dieu les place en haut, et ce sont les désespérés qui parviennent au salut. Extraordinaire. Les désespérés qui parviennent au salut. Extraordinaire. Ils ont fait l'expérience vraiment terrible des limites de leur âme, des limites de leur vie. Et ils ont fait l'expérience d'un Dieu qui les secourt, qui va les chercher au fond du gouffre, au fond de leurs problèmes, de les désespoirs, pour les mettre au-dessus. Ils parviennent au salut. Pour placer au sommet ceux qui gisent en bas. Qui gisent en bas. On s'imagine une personne à plat, ils ne savent même plus se relever, il est vraiment couché dans la poussière. Hein, et le Seigneur va retrouver, et il les place au sommet. Il les place au sommet. Extraordinaire. Ils gisaient en bas, tout au fond. Ils ne savaient même plus se mettre debout, mais Dieu les relève au sommet et les place au sommet. Extraordinaire, ça. C'est pour nous, ça. C'est extraordinaire. Parce que il y a des moments où on est en bas, c'est pas vrai? On voudrait parler à des gens, ils sont toujours en haut, ça va bien. Alors, l'Église s'est faite de gens faibles, des gens qui ont eu des difficultés. Et dans le monde, là, des gens qui essayent de montrer qu'ils sont plus forts que les autres. Mais au final, là, il y a des gens qui agonisent, qui montrent une belle devanture. Des combien d'actrices et d'acteurs qui se sont suicidés, ils n'en pouvaient plus de vivre. Ah, ils ont montré qu'ils étaient forts, ah oui, ça. Mais ils ont montré, c'était une apparence. Mais au fond, les êtres humains sont ce qu'ils sont. Et bien entendu, on a tous besoin d'être relevés. Pour placer au sommet ceux qui gisent en bas, et pour que les assombris se dressent sauvés. Les assombris. Ceux qui sont assombris par les douleurs, assombris par les tristesses, assombris par les circonstances difficiles de la vie. Assombris. Eh bien, les assombris, qu'est-ce qu'il fait avec? Eh bien, il leur permet de se dresser, donc de se relever. Hein? Jésus étant, notre Dieu étant le Dieu de la résurrection, il était couché dans le sépulcre, dans le tombeau, et Dieu l'a relevé, l'a mis verticalement. Et Jésus, sur la terre, il a remis verticalement des gens qui étaient à l'horizontale. Hein, nous pensons au fils de la veuve de Naïm, qui savait pas comment payer ses factures maintenant, et n'avait plus de mari. Elle était vraiment dans une solitude, et puis elle vient de perdre son fils, son seul, son unique. Elle n'a plus de famille, elle est toute seule, et Jésus relève son fils. Il touche cet homme, et ils vont vers le cimetière, mais après, bon, ils sont d'être dans une joie extraordinaire, ils viennent dans la maison en dansant, en chantant, en criant de joie, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais voulu voir ce cortège funèbre où ils allaient vers le cimetière, ils n'allaient pas aller au cimetière, il n'y avait plus besoin de... Le fils, il était ressuscité, revenu à la vie. Extraordinaire, ils ont pu faire une fête. Hein? Extraordinaire. Imaginez-vous ça. Alors, la fille aussi, une jeune fille de 12 ans qui avait été ressuscitée par Jésus, qui l'a remis debout, Lazare. Hein? Lazare sort, et Lazare, il était couché, évidemment, entouré de bandelettes, il n'est pas vertical, hein? C'est à l'horizontale. Et Dieu l'a remis debout aussi. Il était debout alors qu'il était pisté dans ses bandelettes. Déliez-le et laissez-le aller. Hein? Dit Jésus. Extraordinaire. Parce que Dieu l'a remis debout, tout simplement. C'est extraordinaire. Michée, au chapitre 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Extraordinaire, ça. Et je relis ça, Michée, chapitre 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. » Qui est notre ennemi? Le diable. Il se réjouit quand nous sommes en bas. Et dans une grande joie. Mais ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel relève. Il est le Dieu du relèvement. Ce matin, je vous annonce le relèvement. Le relèvement. Relève ta tête. Dieu veut relever notre tête. Il est ma gloire. Il relève ma tête. Il relève ma tête si ma tête est en bas avec les problèmes. Comment je vais faire? Mais il relève ma tête. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Amen. Être relevé ne suffit pas. Ne nous contentons pas d'une délivrance ou d'une guérison ou du souvenir de notre salut. Dieu veut faire de nous des héros, des personnes qui impactent leurs semblables, des sources de bénédiction qui désaltèrent ceux qui sont en train de mourir autour de nous. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est ce que nous voulons, non? Alors, Dieu veut nous relever pour ça. Nous avons besoin d'être relevés pour que nous puissions être des sources, des lumières qui resplendissent de la lumière du Christ. Osée chapitre 11, verset 7 dit ceci, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » Nous sommes tous enclins à nous éloigner de Dieu. Tous. Il suffit d'arrêter de lire la Bible, on arrête de prier, on arrête de venir à l'église, c'est vite fait. Et puis on se laisse aller, « Ouais, mais je continuerai encore à servir. » Puis on s'éloigne de plus en plus et d'autres choses prennent la place. Ça, c'est normal. D'autres choses prennent la place. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. On les rappelle vers le Très-Haut, c'est-à-dire que Dieu a envoyé des prophètes. Et rappelez, attention, hein, souvenez-vous que je suis Dieu, je suis l'Éternel. Rappelez-vous, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que vous laissez rappeler? Mais aucun d'eux ne se lève. Il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont, de ce qu'ils sont. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a, mais se contenter spirituellement de la situation présente, sans chercher plus, ça c'est un risque. Si on ne cherche pas plus, on pourrait... Il y a beaucoup de gens dans la société qui se contentent de connaissent pas Dieu, mais ça va bien pour eux. On ne cherchera pas plus. On ne veut surtout pas autre chose. Pourquoi? Parce que on a peur du changement. On a peur de la remise en question. Quand on doit se remettre en question, c'est pas facile. Hein. Quand Dieu touche nos cœurs, il y a une remise en question. C'est la première chose. Découvrir Dieu, c'est découvrir sa sainteté. Mais à partir de là, on peut s'humilier devant lui et puis trouver une puissance de vie incorruptible en Christ. Dieu a ressuscité Jésus, a mis en lui une puissance de vie incorruptible. Et quand nous venons à lui, il met une puissance de vie incorruptible. Et la puissance de vie incorruptible, elle doit s'entretenir. Elle doit s'entretenir dans la présence de Dieu. Elle doit s'entretenir, c'est un entraînement. Hein, comme une équipe de foot qui ne jouerait plus pendant 2 mois avant de faire un tournoi. Pff, pas grand chose, hein. Mais si nous sommes des chrétiens qui ne nous entraînons plus, dans la prière, dans la communion, etc., on risque de s'étioler. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne se lève. Alors, Dieu est l'exemple de celui qui se lève. Dieu est l'exemple de celui qui se lève. Il nous relève, mais il nous montre comment nous lever. Et lui, il le fait. Premièrement, la révélation nous éclaire et nous met en mouvement. Qu'est-ce qui permet de se lever? C'est la révélation. Quand Paul est en bas sur le chemin de Damas, Dieu lui parle, Dieu se révèle à Paul. Et c'est la révélation qui va le relever. Il sait que il a entendu la voix de Dieu, il a vu la lumière, mais il a entendu la voix de Dieu, il se relève plus de la même manière. C'est pas pour aller tuer ou mettre en prison les chrétiens qui sont à Damas, mais il va se lever parce que maintenant il connaît le Seigneur et sa vie va être changée. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, verset 19, voyons ceci, Pierre dit ça, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'étoile du matin, c'est Jésus. L'étoile du matin se lève dans vos cœurs. L'étoile du matin, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Ça, c'est les promesses, bien sûr, qu'on tient dans son cœur, qui se révèlent, parce que Dieu exécute son plan, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'étoile du matin veut se lever dans votre cœur. Extraordinaire, ça. Jésus se lève, il est le premier à se lever, et il veut que nous nous levions, et pour ça il se lève déjà dans notre cœur. Dieu est le premier à se lever. Psaume 76, verset 10. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les humbles de la terre, il s'est levé pour faire justice. Dieu se lève avec éclat. Psaume 68, verset 2, on le chante. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent, et ses adversaires prennent la fuite devant lui. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Quand Dieu se lève, ses ennemis doivent fuir. Quand Dieu se lève, nos ennemis doivent fuir. Si Dieu se lève dans nos vies, à côté de nous, les ennemis doivent fuir. Et nous aussi, nous voulons nous lever. Acte 7, verset 55, « L'Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. » Jésus était là, debout. Il s'était levé de son trône. Rendez compte? Et vraiment, Étienne, c'est vraiment le symbole de la persécution aujourd'hui. Vraiment, un disciple attaché au Seigneur, qui est bafoué par les Juifs qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Et Jésus se lève. Et quand tous les chrétiens du monde entier sont menacés aujourd'hui, Jésus se lève. Je crois qu'il se lève. Il s'est levé quand Étienne était persécuté, il se lève aussi pour son peuple, et vraiment il est l'exemple de celui qui se lève. Et on voit cela, Étienne rempli d'Esprit Saint fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu, il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, je vois Jésus ». Debout à la droite de Dieu, Jésus se lève. Mais se lever, ça demande des efforts. C'est plus facile de penser « je me lève dans ma tête » que de me lever réellement. Penser, c'est facile, hein. Je peux penser ce que je veux. Je peux faire le tour du monde en pensée. Je peux me lever dans ma tête. Mais se lever va impliquer beaucoup de choses dans ma vie. Si réellement je me lève, ça implique quelque chose. Quand je me lève une heure plus tôt, ça implique que je dors une heure en moins. Et je vais peut-être passer cette heure-là dans la prière. Difficile de prendre une heure en plus, se lever plus tôt que de rester dans son lit. Hein? C'est une image. Se lever, ça implique des efforts. Ça se nourrit d'une décision. D'une décision qui ne va pas être mise en question, parce qu'il y a des décisions qu'on prend. Je ferai ça. Puis le moment venu, tu crois que je vais le faire? On remet en question. De toute façon, c'est devant qui j'ai fait, c'était vis-à-vis de moi. Personne ne le sait, donc, quelquefois, on n'est pas fidèle à la pensée qu'on avait dit, surtout si on n'a pas dit devant aucune autre personne. Des fois, on a un peu de crainte si on a parlé devant quelqu'un de quelque chose qu'on allait faire, alors lui, il saura que j'aurais pas fait. Donc ça, je vais quand même le faire. Mais devant Dieu, on prend des fois des décisions. C'est important de les respecter. Quand Dieu relève, il nous demande de nous lever. Et je voudrais bien prendre trois exemples dans la Bible d'hommes qui se sont levés. C'est important de se lever. Dieu nous relève afin qu'on puisse se lever. Parce que si Dieu est capable de nous relever, il est capable de nous délivrer, il est capable de nous guérir, il est capable, on l'a vu dans beaucoup de miracles de Jésus, il est capable de nous sauver, il nous relève, nous étions dans les ténèbres, dans les difficultés, dans les problèmes impossibles, dans les péchés empêtrés dans toutes sortes d'histoires, et Dieu nous relève, parce qu'il a pitié de nous, parce qu'il nous aime, parce que, voilà, il se soucie de nous. Il se soucie de nous. Mais à un moment donné, c'est à nous à nous lever. Dieu fait un miracle pour nous, Dieu fait des choses extraordinaires pour nous, et nous, qu'est-ce que nous faisons? Alors il nous demande de nous lever, comme Jésus s'est levé quand Étienne était menacé. Finet, par exemple. Finet, au psaume 106, verset 30, Finet s'est levé pour intervenir, et le fléau s'est arrêté. Finet s'est levé. Pas facile de se lever. Quand quelqu'un fait une bêtise, et que j'endosse la responsabilité d'aller exhorter la personne ou de faire quelque chose, c'est pas facile. Des fois, on pourrait trouver toutes sortes d'excuses. D'autres le feront. Je suis pas peut-être la personne la meilleure pour faire ça. Je vais laisser ça à quelqu'un d'autre qui fera ça mieux que moi. C'est plus facile de se débiler. Hein. On trouve mille excuses pour ne pas le faire. Parce que, bon, je suis peut-être pas l'homme de la situation, en fait, je vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre, alors que c'est peut-être moi qui dois faire quelque chose, en fait. Parce que chacun, nous devons nous lever. Et on va lire le texte. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'ils pleuraient à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phinée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phinée, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite, s'appelait Zimri, fils de Salou. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsour, chef des peuplades issues d'une maison paternelle en Madian. Alors, qu'est-ce qui se passe en Israël? Il se passe que certains Israélites allaient chercher des Madianites, idolâtres, et consumaient le péché dans la débauche. Faisaient des alliances comme ça, sans se marier, prenaient des femmes étrangères. Et au nez et au vu de tous, et ça se passe dans la communauté d'Israël, et il y en a qui ne bronchent pas, qui laissent faire. Il y en a plein qui laissent faire, ils ne savent pas quoi faire. Et Dieu est vraiment fâché, irrité sur cela. Dieu est un Dieu saint, comme on le disait tantôt. Et aujourd'hui, la société dirait, on fait ce qu'on veut, hein. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait son choix. Mais à ce temps-là, il y a des règles. Pour Israël, il y a des règles. Quelles étaient les règles en vigueur? Les Israélites devaient se marier au sein du peuple pour justement ne pas tomber dans le paganisme, l'idolâtrie, etc. et tous les cultes païens et pas commettre de péché devant le Seigneur, hein, donc se rouler dans le péché de sexualité débridée, etc. et Phinée Qu'est-ce qu'il fait, Philée? Eh bien, il va mettre un terme au fléau. C'est-à-dire que Dieu, dans sa sainteté, commence à y avoir des gens qui sont en train de mourir d'un fléau qui est venu dans le peuple. Le péché, c'est... Vous savez, nous sommes protégés par Dieu. Dieu met sa main de protection sur nos vies. Mais le péché, c'est une porte d'entrée où l'ennemi peut entrer et faire du tort. Toujours. Et Dieu peut permettre que le mal puisse venir. Un moyen, c'est de refermer cela par la confession du péché. On ferme la porte, on se remet en règle. Et ce que Dieu aurait voulu, c'est que cet homme qui a été exorcé, qui connaît la loi, cet homme se sépare de cette femme madianite et revienne dans son bon sens. Le fléau avait commencé, et lui, au nez et à la barbe de tout le monde, on s'en fiche pour le quand dira-t-on et tout le reste, on vient avec une madianite pour coucher avec elle dans une tente. Et toute la communauté, s'il n'y avait pas eu Phinée, je ne sais pas ce qui serait passé, il y aurait encore des tas de gens qui seraient morts à cause de ça. Et Phinée a été rempli d'un zèle pour Dieu et pour la protection du peuple. Hein. Il a fait cela en même temps pour la sainteté de Dieu et pour la protection du peuple, parce que la plaie s'est terminée une fois qu'il a tué l'homme et cette femme. Alors, nous ne sommes pas sous la loi, vous allez dire. Ça, c'est clair. Hein, les choses ne se passent pas aujourd'hui de cette manière. Mais, dans l'Église, dans le cadre de l'Église, parce que là, nous sommes dans un cadre aussi, qui n'est pas le cadre d'Israël, d'accord? Le cadre d'Israël, c'est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu ce texte. Dans le cadre du Nouveau Testament, Dieu ne permet pas non plus n'importe quoi, la luxure, le péché, l'idolâtrie, n'importe quoi au niveau de la sexualité. Dieu ne permet pas ces choses-là. Et donc, Dieu est un Dieu saint et nous devons avertir. Nous ne devons pas prendre une lance et tuer les gens. Mais nous devons avertir par la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous n'avons pas à faire du mal à qui que ce soit, mais à exhorter avec douceur et humilité, puisque la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes des êtres faillibles. Étant donné cela, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, de douceur, de doigté, devons dire les choses, mais pas blesser davantage la personne, mais plutôt l'aider à s'en sortir, la conduire vers la repentance, la conduire vers le salut, pas la conduire vers la condamnation. Hein, parce que qui veut nous condamner? Le diable. Qui veut que nous soyons perdus et nous mettre une idée dans la tête que c'est fini, c'est foutu, de toute façon, fais ce que tu veux maintenant, de toute façon, tout est raté. Non, Dieu, avec Dieu, il y a toujours une solution. C'est ça qui est extraordinaire, il y a la grâce qui est là. Et nous devons bien faire réaliser que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et là, il y a une séparation entre les deux. Donc, en nous, on doit arriver à séparer le mal et le bien. Nous devons réaliser l'œuvre de la chair et l'œuvre de l'Esprit Saint. On ne doit pas tout mélanger. Le monde est en train de tout mélanger. On ne sait plus où est le bien, on ne sait plus où est le mal. Et plus personne n'a le droit de dire où est le bien et où est le mal. Chacun fait ce qu'il veut, on verra bien. Mais devant Dieu, on ne fait pas n'importe quoi. D'accord? Ça, c'est une parenthèse. Alors, Déborah, une femme qui se lève. Une femme qui se lève. Les chefs étaient sans force, dit-elle dans son cantique, au chapitre 5. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Mon cœur va au chef d'Israël. Vraiment, elle soutient les chefs en Israël. C'est une prophétesse qui soutient Barak. Barak qui aura même besoin d'elle pour aller affronter Sisera. Et il préférait qu'elle soit avec lui pour être plus fort. Et cette femme, elle s'est levée. Elle a fait peur au diable. Vraiment, une femme qui s'est levée, je peux vous assurer, remplie de foi. courage, l'ennemi, elle l'a mis KO. Elle l'a mis KO parce qu'elle s'est levée. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Extraordinaire. Donc, une personne, une femme, que ce soit un homme, hein, comme Finé, que ce soit une femme comme Déborah, quand on se lève, on peut faire la différence. Une fameuse différence. Néhémie et les Judéens, on voit aussi ça, que Néhémie s'est levé. Parce que c'était plus facile de pleurer dans son palais, hein. Il servait le roi, il aurait pleuré un peu, oh, c'est triste pour les Judéens, comme ils sont malheureux. Mais il ne s'est pas contenté de pleurnicher, hein. Ouais, il a pleuré. Mais les pleurs ont engendré une décision. Et il y a une décision qui a été ferme. Pas une décision qu'il a remis en question, après, je vais perdre combien d'argent si je fais ça. Non, vraiment, tout son cœur était là. Néhémie le Judéen. Néhémie 2, verset 12. Puis je me suis levé pendant la nuit. Je me suis levé. Il est parti de est-ce que c'était à Suse? Dans le royaume des Perses et Mèdes. Il est venu à Jérusalem. Il est venu à Jérusalem et il s'est levé pendant la nuit. Pourquoi? Parce que il voulait pas qu'on sache ce qu'il faisait. Lui, il a examiné les murailles. Je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Et donc, il s'est levé. Il s'est levé. Déjà, il s'est levé là-bas, auprès du roi, pour demander au roi la permission de venir reconstruire les murailles, et il s'est levé pendant la nuit. Des fois, la nuit, on dort, c'est vrai. Mais lui, il s'est levé pendant la nuit pour aller vérifier toutes les murailles. Et on voit encore Néhémie 3, verset 1. Il a donné du courage à tous les Judéens qui étaient là, au pays, à Jérusalem, pour se lever aussi. Et on voit que vraiment, ça a fait mouche. Il a impacté les autres, il s'est levé, les autres se sont levés. Et on le voit, le grand prêtre Eliashib s'est levé avec ses frères, les prêtres, et ils ont reconstruit la porte des brebis. Ils l'ont consacrée et ont posé les battants de la porte. Ils ont consacré la muraille jusqu'à la tour de Méa et jusqu'à celle de Ananéel. Voilà, donc d'autres se lèvent. À la suite de Néhémie, quand nous nous levons, d'autres vont se lever aussi. Donc, c'est important de réaliser que on peut se lever pour Dieu. Dieu a besoin de nous parce qu'il y a un travail. Il y a un travail à accomplir. Il nous a relevés. Maintenant, à nous de nous lever pour lui. Néhémie 4, verset 8. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Je me suis levé pour dire aux nobles. C'est pas facile d'aller trouver des gens. C'est pas facile de se lever. Des fois on est timide, hein. Des fois on est plus réservé, on est plus le mot là quand on reste plus dans sa maison. Comment est-ce que le mot que j'ai un peu oublié? Casanier. Moi je serais peut-être casanier au fond. Hein. Il faut toujours que je fasse des efforts pour me sortir de mon. Hein. C'est plus facile d'être casanier. Hein, je vais à la pêche, on ira à la pêche, ou peindre. Moi, j'aime bien peindre, par exemple, faire une aquarelle. Mais c'est plus facile d'être seul, de ne pas être tracassé par les autres, que de se lever. Se lever, ça demande des efforts, c'est pas facile. Il y en a qui ont facile, parce que eux, c'est leur vie de se lever. Ils ont fait ça. Mais pour d'autres, ben, voilà, il y a un effort à fournir, il y a une prière à faire, parce que sinon, je ne démarre pas. Et il faut trouver la force en Dieu pour se lever. Mais quand on prie, on trouve. Et on a la force qui vient. S'il y a de la timidité, Dieu l'enlève. Et Dieu nous donne de nous lever. Extraordinaire. Amen. L'important, c'est vraiment. Alors, Dieu accomplit l'impossible. À nous d'accomplir ce qui est possible. Lui, il fait l'impossible. Alors, quand nous nous levons, c'est pas pour faire l'impossible. C'est pour faire ce qui est possible. Ah, parce que c'est Dieu qui fait l'impossible. C'est Dieu qui se lève. pour faire l'impossible. Mais moi, je peux me lever pour faire le possible. Mon possible. Le possible de Dieu, mais qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que Dieu fait d'impossible pour nous? Ben, deux choses. Je vais reprendre seulement deux petites choses qui sont essentielles pour moi. La première chose, c'est que Dieu nous protège. Il nous protège. On l'a vu encore vendredi. On ne le voit pas, hein, mais la main de Dieu est sur nous. Il nous protège de bien des accidents quand nous sommes en voiture, quand nous sommes à différents endroits. Il y a des gens qui sont super protégés. Ils ont des protections de toutes les sortes. Ils pensent à tout, même pendant la nuit. Ils pensent à la protection. Et finalement, il peut y avoir une situation inexplicable qu'ils n'avaient pas pensé et qui arrive et qui ruine tout, qui ruine tout leur plan. Et nous, quelquefois, on n'est pas trop tracassés. On s'en remet à Dieu et Dieu met une protection extraordinaire. Attention que Dieu peut retirer sa main et permettre une épreuve de venir. Mais si Dieu voulait sa main sur nous, il n'y a rien qui nous arrive. Et quelquefois, il le fait parce que nous devons grandir avec certaines situations, avec certains problèmes. Ça nous permet de mettre notre foi en Dieu. Sinon, sa main est sur nous, l'ennemi ne sait rien faire. Vous savez, quand la main de Dieu est sur nous, l'ennemi ne sait rien faire. Impossible. Il ne saurait pas nous toucher. C'est impossible. Impossible. À part si Dieu tire sa main pendant un instant, l'ennemi peut nous atteindre. Extraordinaire de réaliser cela. Psaume 5, verset 12, alors... Tous ceux qui se réfugient en toi se réjouiront, ils exulteront à toujours et tu les protégeras. Tu les protégeras. Ils exulteront en toi ceux qui aiment ton nom, car toi, Éternel, tu bénis le juste. Comme un bouclier, tu l'environnes de faveur. Comme un bouclier. Tu es notre bouclier, il nous environne de faveur. C'est extraordinaire, nous sommes quand même bénis, nous sommes privilégiés. Vous êtes vraiment des privilégiés. Je suis un privilégié. Nous sommes des privilégiés. Extraordinaire. Nous ne réalisons pas toujours. Privilégiés, incroyables. C'est vraiment... Et alors, deuxième chose, il pourvoit nos besoins. Il pourvoit nos besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Donc ça veut dire aucune inquiétude pour la protection, pour la sécurité, aucune inquiétude, simplement confesser les promesses de Dieu. Prier, bien sûr, il faut prier et faire ce qu'il faut faire. Hein. On ferme les portes de sa voiture quand même, quand on laisse sur un parking, on ferme la porte de sa maison quand on s'en va, mais pas l'excès. De toute façon, même avec un système le plus perfectionné que vous pouvez trouver, s'il y a des voleurs qui doivent venir, ils viendront. Hein, ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Dieu nous protège et que Dieu pourvoit à nos besoins aussi. Philippiens 4, verset 19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Comment est-ce qu'il va pourvoir? Mais il va pourvoir à tous vos besoins, tous. Comment le fait-il? Selon sa richesse, la richesse de Dieu, c'est incroyable. Et les cieux et la terre lui appartiennent, les richesses du monde lui appartiennent, tout lui appartient. Selon sa richesse, avec gloire. Il va pourvoir avec gloire. Avec gloire, vous vous rendez compte, le tout petit mot gloire, c'est extraordinaire, avec gloire. Et comment ça, en Jésus-Christ? C'est en Jésus-Christ que Dieu pourvoit nos besoins. En Jésus-Christ. Nous sommes en Jésus-Christ. Mais à nous de nous lever pour accomplir notre mission. Dieu lui fait l'impossible. Et nous devons faire notre possible, le possible, ce qui est possible. Et c'est quoi notre mission? C'est quoi ce que nous devons nous lever? Pourquoi faire, en fait? Pourquoi est-ce que je vais me lever? Hein, si je me lève beaucoup plus tôt, et je fais quoi? Hein? Je prie, bien sûr. Je suis un disciple. Donc c'est la mission d'être un disciple. La mission d'écouter le Seigneur. La mission de ressembler à Christ. C'est-à-dire se purifier, être des vases d'honneur dans la société, se purifier, être sanctifié, vivre la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et porter les fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, ressembler à Jésus. Alors, la mission de devenir un adorateur en esprit, en vérité, Dieu veut que nous soyons des adorateurs, des adoratrices. Et c'est-à-dire épouser la mentalité du ciel. Est-ce que j'épouse la mentalité du ciel ou j'ai la mentalité de ce monde? Alors si j'ai la mentalité de ce monde, je ne vais pas adorer. J'adore en apparence, puis la mentalité de cette terre, non. Mais la mentalité du ciel, ça c'est autre chose. Alors ça me pousse à adorer Dieu. Extraordinaire. J'ai la mission d'aimer l'Église et de la servir. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer l'Église, la servir. La mission d'être des témoins dans le monde. Être des témoins, c'est ce que Dieu veut. Nous puissions sortir des murs de l'Église et faire communiquer la bonne nouvelle. Il faut qu'on se lève pour ça. Si on ne se lève pas, on va rester sur une chaise ici, en quatre murs. C'est tout ce qui se passera. Et donc, nous sommes missionnaires, nous ne sommes pas démissionnaires, nous sommes missionnaires dans ce monde, des chrétiens avec un but. Des chrétiens qui ont un but, pas le but de chamailler ou le but de penser à n'importe quoi, mais le but de remporter des victoires pour le salut des âmes. La mission d'annoncer la vie, notre bouche doit servir à quelque chose. C'est avec notre bouche que nous annonçons, mais on ne peut pas la dissocier de notre témoignage, notre vie. L'œuvre à laquelle Dieu nous invite à le suivre, bien sûr, c'est ça, se lever pour accomplir les œuvres préparées d'avance afin que nous puissions les accomplir. Dieu a prévu des œuvres qui sont bonnes. Alors, ça nous parle de la direction de l'esprit et de l'excellence dans la manifestation de nos dons et talents. Direction de l'esprit, toujours, et puis les dons qui sont les nôtres, et puis l'excellence dans nos dons, en étant dirigé par l'Esprit. Alors on accomplit forcément les œuvres de l'Esprit. On accomplit forcément les œuvres préparées. Et c'est génial. C'est extraordinaire. Se lever pour les perdus, se lever pour la prière, pour l'Église, pour la réconciliation, pour les relations, pour l'interpellation, la proclamation, la responsabilisation. Nous sommes responsables de notre vie. Nous sommes responsables de nous lever pour Christ. Nous sommes responsables. S'il y a une chose pour laquelle il vaille la peine de mourir, pour celui-là. S'il y a une chose pour laquelle il vaille la peine de vivre et de se lever, ben lève-toi et accomplis cette démarche. Vas-y. Prends l'initiative. Fais ce que le Seigneur te montre. Nous sommes responsables de la vie que nous menons, des objectifs que nous poursuivons, de l'utilité ou de la futilité, de ce que nous pensons, de ce que nous disons, de ce que nous faisons. Si nous n'avons pas de but et nous laissons la vie aller comme ça, ben nous sommes responsables d'avoir vécu une vie pareille. Sans but, sans sens, sans direction, ben on est responsable. Nous devrons rendre des comptes par rapport à la manière dont nous avons vécu sur cette terre, comme dans la parabole des talents. Le maître avait donné 5 talents, à l'autre 2, à l'autre 1. Les 2 premiers ont bien rempli leur mission, parce qu'ils ont fait fructifier le double de ce qu'ils avaient au départ. Mais le troisième, il a enterré son talent en terre. Pourquoi? Il avait une mauvaise idée. Une mauvaise manière de considérer le maître, hein, toi qui récoltes là où t'as pas semé, je crois que je vais travailler pour toi, hein. Oh, il y a autre chose à faire. Donc une mauvaise considération du maître, une méchanceté dans le cœur, et finalement la paresse, parce que tout ça c'est des excuses pour ne rien faire. Et nous ne devrions pas, c'est une des fautes les plus graves, c'est la paresse. La paresse par rapport à nos responsabilités. La négligence, ne soyons pas négligents, et que le Seigneur nous aide à ne pas négliger ce qu'il nous demande de faire, à ne pas être paresseux. Dans une équipe de travailleurs, on peut demander à Loulou, des gens paresseux qui vont fumer une clope dans un coin et aller plus souvent qu'il ne faut à la toilette, ceux-là, on va leur dire, écoute, si tu ne changes pas d'attitude, tu sais, la porte est là-bas, et voilà. Et il n'y a pas de solution, hein. La paresse, c'est pas possible, c'est pas acceptable. C'est pas que les patrons sont méchants, mais si le témoignage n'est pas bon au niveau du travail, on vous gardera pas. Et Dieu, il voit nos vies, et si nous avons été paresseux, nous n'avons pas pris l'engagement de nous lever, qu'est-ce que vous voulez faire? Nous serons jugés à nos actes et à nos paroles. Sûrement pas à la couleur de notre peau ou des choses pareilles, c'est à nos actes et à nos paroles. Hein, c'est Martin Luther King qui parle de cela aussi, dans une prédication. Nous sommes jugés, on nous juge par rapport à qui nous sommes, notre façon de vivre. C'est ça qui est important. Donc, en conclusion, ne soyons pas l'homme au seul talent qu'il a enterré. C'était une question de mentalité. La mentalité, la manière de considérer, la manière de voir les choses. La conception du monde, de Dieu, des valeurs, des priorités, des peurs, du courage, la paresse, la responsabilité, du choix de vivre, de la manière dont nous concevons la vie, de la manière dont nous donnons du sens aux choses qui nous arrivent, à ce que nous voulons vivre, notre impact pour changer quelque chose, la manière dont nous gérons les circonstances présentes aussi, parce qu'il y a des fois, on a un but, et on n'arrive pas au but. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses qui viennent bloquer, qui viennent casser, nous démolir dans notre motivation de faire quelque chose. Des fois, ça va vraiment pas comme on l'avait pensé. Imaginez quelqu'un qui veut être un athlète, et puis il est fauché dans un accident de voiture, il se retrouve tétraplégique. Il est foutu dans sa vocation d'être un super grand athlète. Ben, bon, il y a aussi des courses il y a d'autres formes pour les athlètes qui sont handicapés, etc. Il y a d'autres possibilités, mais il faut savoir se remettre en question et savoir se réorienter par rapport, et c'est ça, hein, on n'a pas toujours la situation idéale. Notre situation n'est pas toujours idéale. On aurait voulu que les choses se passent autrement, et on est déçu, et on va pas en rester là. Qu'est-ce que je fais avec mes déceptions? Ben, il faut bâtir sa vie avec la situation telle qu'elle est. Et pas commencer à essayer d'inventer une vie qui n'est pas la nôtre. À partir de notre vie, lui donner un sens. Lui donner une trajectoire, lui donner une face. Dieu peut nous aider à voir clair. Et que ce soit l'âge. Si on atteindrait même 90 ans, Dieu ne peut plus rien faire avec nous. Ben, je suis trop vieux. Je suis pas assez intelligent, je suis pas assez ceci. Non, je n'ai aucune raison de pouvoir dire je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci, trop cela. Non. Avec qui je suis, Dieu veut m'utiliser, je peux me lever. Que je sois un homme, que je sois une femme, qui que je sois, Dieu veut que nous puissions. À quoi aura servi ma vie? C'est ça aussi la question. À un moment donné, je devrais me poser la question, qu'est-ce que j'ai poursuivi? Qu'est-ce que je poursuis dans ma vie? Et les personnes qui ont fait déjà une bonne partie de leur vie, la question c'est, si je pourrais la recommencer ma vie, m'y prendrais-je de la même manière? Est-ce que je m'y prendrais? Est-ce qu'il y a des choses qui changeraient? Est-ce que je changerais? Il y en a qui disent, je changerais rien du tout. Mais pour certains, oui. Et moi, je crois personnellement que tout le monde, quasiment tout le monde, devrait changer les choses. Vous croyez pas? Ou alors, ils sont parfaits, les gens sont parfaits, je ne changerai rien, c'est fantastique. Bah, oui, c'est fantastique. Dans les grandes lignes, ça peut l'être, mais dans les détails, je ne pense pas. Nous avons tous des choses qui ne sont pas parfaites. Qu'est-ce que je changerais? Je prendrais plus de temps pour qui et pourquoi? Je prendrais plus de temps pour qui et pourquoi? Dieu me relève et me relèvera. Et moi, je veux me lever. Dieu dit à Isaïe, j'entendis la voix du Seigneur en disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Némir, il s'est levé. Finé, il s'est levé. Déborah, elle s'est levée. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Dieu nous a relevés, n'est-ce pas? On a été auditeurs et spectateurs de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Il nous a sauvés, il nous a transformés, il a agi dans nos vies. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va se contenter de des bénédictions passées, de ce qu'il a accompli pour nous. Moi, je me rappelle ce qui s'est passé, quelque chose de chouette dans ma vie une fois. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Alors, on va prier. Seigneur Père, nous te remercions, Seigneur, parce que tu es un Dieu extraordinaire qui nous relève. Tu nous as relevés, Seigneur. Nous étions vraiment en perdition, nous étions vraiment au plus bas. Nous étions même désespérés pour certains, désespérés de pouvoir arriver à quelque chose, désespérés que la situation change. Et toi, tu es venu, tu es intervenu. Et tu nous as relevés, tu nous as mis au sommet. Nous étions tout en bas, tout au fond du trou, et toi, tu nous as relevés tout en haut. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu es celui qui relève. Tu relèves, Seigneur, le malheureux. Tu relèves celui qui s'incline devant toi, qui confesse ses fautes, qui confesse ses manquements. Seigneur, et tu nous aides à prendre partie, Seigneur, de nous lever à ta suite. De nous lever, Seigneur, pour accomplir la mission que tu nous donnes d'accomplir, pour accomplir les œuvres, Seigneur, comme Néhémie, comme Déborah, comme Phiné, comme bien d'autres, comme Esaïe, qui s'est levé pour faire ta volonté, qui enverrai-je, me voici, envoie-moi. Seigneur, nous voulons, Seigneur, te servir, toi qui es tellement bon, qui nous bénis, qui pourvoit nos besoins, qui nous protège, Seigneur, et qui fait tellement d'autres choses pour nous. Seigneur, nous voulons nous lever pour toi. Nous sommes tellement bénis que ce serait une honte de ne pas se lever avec tout ce que tu nous as donné. Merci Jésus. Nous voulons être responsables, pas seulement te responsabiliser pour recevoir plus, mais tu nous donnes d'être responsables de qui nous sommes. Merci Seigneur, et de ce que nous allons faire de notre vie. Merci Jésus. Vous pouvez chanter? Pour nous, connaissons-nous une femme.